Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans les grandes voix. Bonjour à Catherine, Michel Cotta et Charles Villeneuve.
Bonjour, bonjour.
La semaine passée, souvenez-vous, ici même, nous évoquions le silence d'Emmanuel Macron. Le voilà qui s'exprime. Longue interview à la PQR et aux Parisiens aujourd'hui en France. Interview multicarte à la fois. Sur le fond et la forme, sur les chantiers à venir, sur la création d'un Conseil national de la refondation, pas très éloigné, selon le président, de celui de la résistance, sur le pouvoir d'achat, sur Pape Diaye et même sur Mélenchon, que retenir? Et surtout, comment analyser cette sortie, j'allais dire, soudaine à une semaine du premier tour des législatives? Nous verrons cela en premier. L'autre sujet, et il est évoqué dans cette interview fleuve, ce sont les violences au Stade de France. Hier soir encore, la sécurité au stade a eu du mal à contenir la foule, pourtant non violente. La violence, fléau français en devenir? Et si oui, quel type de violence? On en parle aussi. Nous évoquerons la campagne des législatives. Et n'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon, le président fraîchement élu le dit clairement ce matin dans la presse. En cas de victoire de la NUP, aucun parti politique ne peut imposer un nom au président pour le Premier ministre. Au sommaire également l'Ukraine et le jubilé de la reine. Bonne émission, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Macron silencieux, plus tellement à en lire ce matin dans la presse régionale cette longue interview au titre accrocheur. Les Français sont fatigués des réformes qui viennent d'en haut. Ça, c'est étonnant hein, pour Jupiter. Moins étonnant lorsqu'on comprend la suite, la création d'un Conseil national de la refondation que le président compare au Conseil national de la résistance, en toute simplicité. À la clé, si ce n'est des réformes, des ajustements économiques en tout cas, notamment sur le pouvoir d'achat et... Bah, et plein de choses sur Pape Diaye, sur Mélenchon, sur Marine Le Pen et même sur Mbappé. Au final, quand on referme, quand on a fini de lire cet entretien, est-ce que vous trouvez les grandes voix que Macron a beaucoup changé?
Écoutez, moi je trouve qu'il y a quand même
Michel
une volonté
Cotta.
Pour lui. Je trouve qu'il y a une volonté pour lui, oui, d'afficher un profil plus bas, d'afficher plus de
l'horizontalité.
Oui, une horizontalité, de dire que je vous ai compris quelque part.
Ah.
Je vous ai compris, vous voulez qu'on discute, vous voulez qu'on parle. Alors, moi, je suis tout à fait, je trouve que c'est très bien qu'il le fasse. Simplement, mais ça on en parlera sans doute, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un peu curieux de faire la campagne des législatives et d'annoncer la création d'une autre assemblée.
Mmh.
Je crains
si le Parlement ne comptait
Députés, oui. Je ne sais pas comment les apprentis députés vont le prendre. Voilà. Mais sur Macron, de toute façon, tout est calculé. Et calcule qu'il faut faire profil bas parce qu'il pense que c'est dans l'air du temps.
Catherine Ney.
Moi, je crois qu'il a été pendant 5 ans un président qui a beaucoup parlé. Et qui parlait trop. Et ça durait longtemps. Voilà. Mais d'ailleurs, tout le monde en avait marre. Et c'est si vrai que lorsqu'il est venu à Strasbourg devant la Convention européenne, il a commencé son discours en disant « Mauvaise nouvelle, je vais faire un discours. Mais rassurez-vous, je ne reprendrai pas ce qui a été dit. » C'est-à-dire qu'il parlait trop et on lui a dit. Et moi, je crois que la fatigue aidant, parce que quand même, à la fin de la campagne, il était crevé, parce que avec la guerre en Ukraine, les coups de fil avec Poutine, parce qu'une fois qu'on a téléphoné à Poutine à la demande de Zelensky, on rappelle Zelensky, puis après tous les homologues, il restait quelquefois 11 heures au téléphone avec ses homologues européens. Donc, je pense qu'il était crevé, et d'ailleurs, à peine son élection, il est allé devant la Tour Eiffel pour faire un discours totalement désinvolte, un petit peu comme le type improvisé, qui n'avait pas travaillé. Bon, voilà. Et puis pareil, pour son discours d'investiture, on va agir, une anaphore. Donc moi, je pense qu'il avait besoin de souffler. Et d'ailleurs, tout devait changer. On reprend à peu près les mêmes au gouvernement. Et là, le nouveau président, en tous les cas, est une chose, il va moins parler. Alors, je ne sais pas s'il tiendra. Mais pour l'instant, c'est ça le plus nouveau, c'est que la parole est plus courte.
Donc aujourd'hui, l'interview...
Oui, mais c'est une chose de l'entendre et une chose de le lire.
Elle aurait pu être plus longue, cette interview.
Elle aurait pu être plus longue, d'ailleurs. Vous avez raison.
Charles Villeneuve.
Moi, je reprendrai, si vous voulez, la phrase du prince Massina dans le Guépard. Tout change pour que rien ne change. Il sera toujours long, de toute façon. Et rappelons-nous que c'est vrai qu'on s'est étonné ici du silence du président, mais qui a été extrêmement tactique pendant toute la campagne présidentielle et qu'il l'est tout autant pour les élections législatives. On attend le temps de l'action. Et d'ailleurs, étonnamment, il y a quand même une atonie de la Première ministre aussi qui, nous le savons et nous le comprenons. Elle est dans sa circonscription et comme elle est en campagne, elle est obligée de se taire quasiment. Oui. Bon.
Comme tous les ministres, on ne les entend pas.
Oui.
Et donc, ce que je vois, c'est que pour reprendre l'idée de Michel, qui disait qu'il souhaite être plus horizontal que vertical, Jupiter, il a été profondément Jupiter. Là, il veut être Héphaïstos. Bon, alors je suis un tout petit peu étonné parce que quand on regarde dans la chronologie...
Ça parle au grand public,
Oui, non, mais il n'est pas inutile non plus et tu t'en plains de temps en temps mais qu'on fasse un peu appel à la culture.
Non, mais c'est ce qu'il a dit au Conseil des ministres, son premier Conseil des ministres. On m'a pris pour... Voilà. Héphaïstos. D'ailleurs, les ministres ont sorti leur dictionnaire pour savoir qui c'était. Mais toi,
pas tous.
Bon. Alors,
donc c'est le dieu.
Est-ce qu'on peut dire de, on peut, je peux dire.
Mais
ce
non,
que
mais
c'est
nous
Héphaïstos.
Avons. Mais
alors,
oui, et bien voilà. Bon. Oui.
Charles, Héphaïstos, c'est le dieu
du feu. Mmh.
Du feu.
Du feu, des arts, de la forge et du travail des métaux. Mmh. Travailler le métal, c'est de toute façon, je le dis souvent. D'ailleurs, c'est ce que me dit celle qui m'interrompt souvent, Catherine. Et donc, travailler le métal...
Ça part en vrille, cette émission, déjà dès 10h14.
Non, mais travailler le métal, c'est aussi dialoguer.
Oui.
Et c'est, hein,
et c'est ça, le conseil de la refondation.
Et c'est ça, le conseil.
Pour la rendre malléable.
Il veut être participatif, comme De Gaulle l'a été. D'ailleurs, Catherine m'a souvent expliqué que cette participation souhaitée par De Gaulle a été combattue immédiatement par Pompidou, qui en riait quasiment, qui l'ironisait et qui a fait disparaître tout à fait et très vite la participation.
Tout en s'en glorifiant.
Alors, oui, ce qu'on attend, alors, et je le répète, ce qu'on attend, c'est le temps de l'action. C'est le coup d'envoi après les législatives, puisque c'est prévu que ce temps de l'action, notamment, se fera sur le pouvoir d'achat. Mmh. Et moi, je m'étonne qu'avant même le premier tour de ces élections, aucun texte n'a été évoqué par rapport au pouvoir d'achat. Et c'est la principale préoccupation, même si nous allons beaucoup parler de la sécurité. Si, quand tu vas dans les grandes surfaces, quand tu vas au marché, quand ça t'arrive, c'est d'ailleurs notre travail aussi d'y aller et d'écouter les gens, on ne te parle que de ça. Que de ça, que ce soit dans les bistrots, que ce soit dans les conversations qu'on peut nouer, notamment hier au stade où j'étais, au Stade de France, etc. On ne m'a pas parlé de foot ni de la contre-performance de l'équipe de France. On m'a parlé, qu'est-ce que vous en pensez, Charles, de pouvoir d'achat? Alors, j'étais évidemment quoi? Parce que moi, j'avais envie de regarder le match et pas de discuter du pouvoir d'achat.
Bon, et Michel Cotard?
Non, je veux dire, pour l'action, pour même l'élaboration de ce conseil émanant non pas de la résistance, mais de la refondation, et encore faut-il qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale. Alors, moi, je trouve qu'il y a une façon quand même... je comprends très bien que finalement, Emmanuel Macron n'ait pas parlé dans les 15 premiers jours pour les raisons qu'a évoquées Catherine. Mais enfin, il faut les gagner, ces élections. Si il ne les gagne pas, alors on entre dans un tout autre système. Il est libre, effectivement, de prendre qui il veut, c'est ce qu'il dit. Mais les gagner d'abord, c'est-à-dire, effectivement, parler du pouvoir d'achat, faire ce qu'il a dit. Il énumère quand même un certain nombre de mesures assez démagogiques, hein, y compris on n'enlève plus les points quand on dépasse...
5 km/h.
Ça me paraît tout à fait normal et tout à fait raisonnable.
C'est la marge d'erreur du radar, déjà, 5 km/h.
Il faut dire qu'il y a une façon d'enjamber les élections législatives dans ce qu'il dit, en les considérant comme acquises. Et on va voir si elles sont acquises.
Catherine Ney.
Oui, parce que... Il est le premier président à être élu après un quinquennat. Or, le quinquennat, il a été institué pour que ça soit presque automatique, un président élu, une majorité conforme. Mais en cas de réélection, c'est pas comme les, hein, c'est peut-être pas comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Or, ce que reprochaient d'ailleurs des gens dans la Macronie, c'est de pas fixer, de dire aux demandés, de solliciter les électeurs et de leur dire « faites le bon choix », comme l'avait fait Giscard en 78 quand il craignait d'avoir une majorité de gauche et avoir une première cohabitation, comme l'avait fait François Mitterrand, réélu en 88, qui avait dissous l'Assemblée et qui avait demandé d'ailleurs une majorité où il n'y ait pas trop de socialistes, une majorité ric-rac, et il a été exaucé. Et bien là, pour la première fois, dans son interview, il indique le bon choix, mais à la fin de cette interview où il dit « Je souhaite que dans la continuité de l'élection présidentielle, les Français fassent le choix de la solidité d'une majorité stable et sérieuse pour les protéger face aux crises. » Ça, il l'a dit.
Ouais. Mais alors, il faut que les Français lisent l'interview.
Je suis d'accord sur la place accordée.
Michel Cotard.
Il le fait en fin de discours, peut-être, enfin en fin d'écriture, peut-être, mais je ne sais pas si ce sont les journalistes, après tout, qui ont pu rechanger l'ordre des questions. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a l'impression d'attendre la fin. Savoir.
Parce que surtout, la fin de l'interview, c'est une série de rafales. On a l'impression que forcément, ça a été peut-être un peu plus long, notamment sur Pape Diaye, sur Jean-Luc Mélenchon, sur. Non
Enfin, sur ses adversaires, quand même. Il a le temps de dire quelques mots sensibles.
Charles Villeneuve.
Moi, je crois que ce qui obscurcit le raisonnement, notamment des journalistes, c'est l'omniprésence de Jean-Luc Mélenchon. Parce que jusqu'à présent, l'opinion publique française, à l'exception de 1988, des élections de 1988, ont toujours assuré une majorité absolue au chef de l'État, notamment dans les quinquennats, toujours. Alors, l'état-major de l'Élysée, lui, ne croit pas, de toute façon, une majorité relative. Il pense que la majorité absolue sera atteinte. On verra bien. Tout le reste n'est que spéculation. Et c'est vrai que, jusqu'à présent, le président de la République, sans ses interventions tardives dans la chronologie, si vous voulez, des élections, lui ont toujours porté chance.
Ah oui, je vous la montre. On reparle de cette interview des législatives des violences dans les stades juste après une première pause. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Avec Catherine, Michel Cotard et Charles Villeneuve, on évoque cette interview, non pas fleuve, mais une interview, on va dire costaud, du président Macron dans la presse régionale. Plusieurs choses. D'abord, on a parlé du pouvoir d'achat, on a parlé de ce conseil de la refondation. Il y a quand même, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais si on lit le paragraphe sur Pape Diaye, bon, on comprend qu'il a été nommé ministre, mais qu'il, non pas qu'il obéira directement à Emmanuel Macron, mais quand même pas très loin. C'est-à-dire que voilà, il sera dans les rangs et il suivra, et ça sera dans la continuité de la politique menée. Et puis alors, cette phrase quand même, revenons-y deux secondes. Sur Mélenchon, aucun parti politique ne peut imposer un nom au président de la République. Ça s'appelle fumer Mélenchon, non, Charles Villeneuve?
Fumer, c'est-à-dire
là, langage.
C'est un langage du grand banditisme.
Oui. Oui. Mélenchon ne s'impose pas automatiquement.
Bien, là. Bon, je sais pas. Non, mais je laisse parler.
J'ai posé la question à Charles.
Mais oui, mais tu réponds, Charles. Moi, je ne vais pas te couper la parole, tu sais.
Surtout pas. Oui, voilà, évidemment.
Je vais mettre des cartons rouges.
Non, mais... Oui.
Non, mais il a parfaitement raison. Il peut choisir, dans la France insoumise, d'autres leaders que celui qui ne se présente même pas, parce qu'il est étonnant quand même qu'il n'aille pas chercher une nouvelle légitimité. Il est peut-être fatigué, mais certainement pas de la parole.
Michel Cotard.
En ce moment, c'est un peu de politique fiction quand même, parce que tous les sondages tels qu'on voit montrent qu'effectivement, il y a maintenant un petit risque pour qu'il n'ait pas lui tout seul la majorité. Un petit risque. Il n'y a encore pas de risque pour que Mélenchon ait la majorité lui-même. Mais de toute façon, il a raison. Il peut très bien choisir, par exemple, un socialiste, un NUP, certes un NUP, mais un ex-socialiste NUP. Après tout, ça existe. Il n'est pas obligé de choisir Mélenchon. Et de toute façon, Mélenchon n'est pas élu. Donc, c'est vrai qu'on vit quand même. Les 15 jours, on trouvait que Macron ne parlait pas. On a vécu dans une espèce de roman de politique fiction.
Mais vous savez, la nature a horreur du vide. Bon, une fois élu, le président n'a plus parlé. Mais Marine Le Pen non plus.
Non plus.
Donc, il y avait un vide qu'a occupé tout à fait intelligemment Jean-Luc Mélenchon. Et il l'a d'autant plus occupé que vraiment, la presse, je veux dire, vous ne pouvez pas ouvrir un journal, pas regarder une radio sans voir Mélenchon. C'est exactement, il s'est passé avec Mélenchon, ce qui s'est passé avec Éric Zemmour avant, il y a dans la fin de l'année dernière, où vraiment, du Mélenchon, on se disait, mais on n'en pouvait plus presque. Bon, là, il y a un peu cette... mais lui, il en profite, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a été battu, il fait croire, alors qu'il ne se présente pas, qu'il ne sait pas, qu'il peut être Premier ministre, il n'en croit rien. Mais il fait du cirque et il a du talent.
Marketing.
Il fait du marketing. Et surtout, il a fait cette OPA sur la gauche. Il joue les François Mitterrand, mais alors sans programme commun, parce que les autres se sont soumis à l'insoumis. Et donc, quand on appelle ça le NUP, moi, j'appelle ça la NUP propriété de Mélenchon.
Mélenchon dit Mélenchon, la NUP.
Voilà. Oui, mais parce que NUP, ça fait NUP propriété. Oui. Donc, c'est parce qu'il s'est accaparé, ça. Il est très fort, mais qu'est-ce que ça va donner? Et vous croyez qu'il a vraiment envie d'être Premier ministre? Mais pas du tout. Parce que là, quand il dit, d'ailleurs, il a une phrase pour dire « Je ne vous promets pas le paradis tout de suite,
oui,
ça veut dire
mais
oui,
en attendant,
mais
oui,
je vous sors de l'enfer. Oui. Et ben, l'enfer, il le connaîtra, les mains dans le cambouis. Il a jamais gouverné. Je veux dire.
Ce à quoi, d'ailleurs, Emmanuel Macron répond ce matin par la formule connue de désormais connue de Sylvain Tesson. La France est peuplée de gens qui vivent au paradis, mais croient être en enfer. C'est une très jolie phrase.
Oui. Mais si on revenait à l'interview du président de la République, au fait qu'il veut révolutionner la méthode. C'est ça qu'il implique dans son...
C'est pour ça que je lui ai demandé s'il a beaucoup changé.
Oui, il veut reconstruire la France en associant tous les courants politiques, à l'exclusion de la France insoumise et du Rassemblement national. Alors, Héphaïstos, il commence quand même relativement mal. S'il veut travailler tous les métaux, il faut aussi qu'il intègre de toute façon.
Il n'a pas dit qu'il exclurait forcément de la Constitution.
Ça implique.
Quand vous lisez le chapitre sur Mélenchon et Marine Le Pen, vous comprenez
les partis d'opposition sont reçus
à l'Élysée et consultés. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on veut les faire entrer au gouvernement, mais bien sûr qu'ils seront consultés.
Le projet de Jean-Luc Mélenchon ou de Madame Le Pen, c'est le désordre et la soumission.
Oui, oui, leur. Mais ce qu'il va proposer, il va leur demander leur avis.
Mais de toute façon,
Attendez, Catherine, comment est-ce que vous voulez demander son avis à quelqu'un qui, de toute façon, incarne le désordre et la soumission?
Mais parce que c'est une méthode nouvelle. Ils ont toujours été consultés. Ils ont toujours été consultés.
L'opposition a toujours été reçue à l'Élysée, voyons. Marine Le Pen a toujours été reçue à l'Élysée quand on consultait. Il n'y a pas de raison qu'elle
Mais il donne le là quand même. Il la reçoit à l'Élysée, mais il dit bonjour, je vous reçois, mais vous incarnez le désordre de la soumission.
Oui,
ça commence bien.
Aussi bien Mélenchon.
On est en campagne électorale. Hein.
Aussi bien que Mélenchon que. J'allais dire Catherine.
Non, pas encore. Que Marine Le Pen.
Que Marine Le Pen. Parlant des obsessions.
Attendez, il y a de la private là.
Que Marine Le Pen, dès qu'elles arriveront devant le chef de l'État, ils incarnent le souk. C'est ça qu'il leur dit, le désordre.
Oui.
Donc c'est vrai que c'est une formidable participation. Ça, c'est sûr que pour les convaincre dès le départ, vous les mettez au pied du mur de ce qu'ils sont. Il y a une concertation relative.
Nouvelle pause et on parle dans un instant des législatives et aussi surtout des violences dans les stades. Est-ce qu'on sait gérer, est-ce qu'on sait juguler la violence en France ? À tout de suite.